Nous, on rentre en forêt, là, on n'a même pas dit merci, on fait des calculs, on va prendre ci, on va prendre ça, mais qu'est-ce qu'on est sans la forêt? Et ça, si c'est pas, on ne pose pas une base différente du rapport de l'homme à la forêt, c'est pas nous qui faisons la forêt, elle se fait elle-même, on l'accompagne, on y apporte des changements, on se gave surtout, on la détruit surtout, on gaspille surtout. Si on veut repartir sur des bases complètement différentes et stopper le gaspillage, parce que ce ne sont pas les manques de moyens. Et cette chaîne industrielle qui est très soutenue, pour moi, ce n'est pas uniquement le rapport financier qui motive ça. Il y a quelque chose de plus grave. Il y a une notion de contre-nature, d'antinature, qui vient qu'on a coupé nos propres ressentis soi-disant sauvages, quoi.
Entre cimes et racines. La deuxième d'une série d'émissions réalisée par Radio Zinzine en partenariat avec le Réseau pour les alternatives forestières et avec le soutien de l'association Reliée et de la Fondation pour une terre humaine. Dans la première émission, nous avons surtout constaté l'évolution préoccupante de la filière bois et des politiques qui les encadrent en France. Cette fois-ci, nous voulons commencer à aborder des approches et des pratiques différentes, toujours grâce à des entretiens réalisés lors des rencontres du Réseau pour les alternatives forestières. Mais tout d'abord, écoutons la suite de ce coup de gueule de Pascal Menon, bûcheron dans les Alpes d'Haute-Provence et grand passionné de la forêt, enregistré lors d'un échange dans une forêt près de Rodez, dans l'Aveyron.
Donc, il faut renverser ça. Ce n'est pas uniquement les chiffres, ce n'est pas vrai, parce qu'il y a bien des secteurs où on perd de l'argent. Mais il faut qu'on le mette, le bulle, dans la forêt. Il le faut à tout prix. Et il faut se poser la question, au-delà de faire marcher la machine, qu'est-ce qui motive ça, plutôt que de faire différemment et de récolter. Parce que si c'est bien récolté dans une forêt comme ça, les arbres qu'on a laissés, en effet, ils donnent beaucoup plus de bois. Mais bien récolté, ce n'est pas uniquement de dire il faut laisser X tiges à l'hectare. On peut laisser 800 tiges à l'hectare et la forêt peut être complètement déstructurée. Parce que la mise en lumière violente, ou même à peine violente, ce n'est pas uniquement la descente de cime, les gourmands. C'est au niveau de la structure même de l'arbre, de l'acheminement de la sève, là, par ces fameuses bulles de CO2, qui fait que cet arbre est fragilisé et qu'à terme, il a de moins en moins de valeur. Ça aussi, d'un point de vue technique, on est en train de mettre en place des forêts qui ont de moins en moins de valeur. Et je pense à une dernière un peu précision technique, c'est l'hydron qui me l'a apporté. Les sciages super rapides, des super scieries qui font 2000 mètres cubes à la minute, eh bien, il y a arrachement des microfibres et on arrive à rendre une planche de mélèze aussi minable qu'un peuplier OGM dans sa qualité.
Lison Fleury est aussi bûcheron et forestier dans les Alpes d'Haute-Provence. Il est né dans le massif de la montagne de Lure et il a sillonné ses forêts toute sa vie. Son approche au travail forestier est radicalement différente de celle des grandes entreprises qui exploitent le bois dans la région.
Ce milieu, étant donné qu'il est notre avenir et une partie de nous-mêmes, il faut réussir à l'observer. Et c'est vrai qu'on passe des heures à l'observer. Quand on coupe un arbre, ça peut, des fois, on peut discuter pour un arbre qui n'est même pas très gros. Hein. On peut se retrouver à trois à discuter autour de l'arbre pendant un quart d'heure. Et finir soit par le couper, soit dire que là, on verra plus tard, un autre jour, en fonction des autres ou de l'évolution, on aura peut-être revenir le couper. On est effectivement très sélectif, c'est pour ça que notre rendement est environ 5 fois moins important qu'une exploitation classique. Parce qu'on passe énormément de temps à choisir les arbres qu'on va couper, enfin dans les paramètres, on va dire, de choix. Pour un arbre à couper, ça va être la tête qu'il a au niveau uniquement esthétique. C'est un critère esthétique, il est très très important. Il y a un critère de ce qui pourrait de ses voisins. Est-ce qu'il le gêne pour l'instant? Est-ce qu'il le gêne pas? Est-ce que on pourrait l'utiliser? Donc, il faut regarder ce qu'il y a autour, savoir si celui-là on le prélève pour faire une poutre ou un morceau de bois pour un sculpteur qui a envie de faire une balustrade. Un chapeau de je sais pas de balustrade ou autre. Donc là ça va être les critères sont très variés et c'est vraiment en fonction des des arbres qui sont autour, qui sont à côté, qu'on va être obligé de se décider sur un tel ou un tel à abattre. Donc c'est vrai que c'est très très long, c'est très intéressant parce qu'il faut s'imprégner vraiment, il faut s'imaginer la forêt plus tard, et la forêt elle est par-delà nous, hein, et un arbre c'est une dizaine de générations, donc il faut aussi penser à ceux qui viennent après, il faut penser à soi avant de quitter ce monde, donc déjà profiter de cette évolution de la forêt et de ces arbres. Donc là c'est très très intéressant, c'est vraiment passionnant, mais c'est vrai que c'est difficile. Notre politique, ce n'est pas planter. C'est vraiment privilégier au maximum la régénération naturelle et la diversité des essences, avec donc le maximum d'essences, y compris les buissons, hein, parce qu'un buisson, c'est extrêmement important dans le développement ou les plantes et tout ça, c'est très important dans le développement de la forêt. Donc ça, on privilégie ça au maximum, la diversité et les étages de végétation, donc de l'herbe aux buissons, aux arbustes, enfin arbrisseaux, dans l'ordre, c'est les buissons, les arbrisseaux, les arbustes et les arbres. Donc avoir ces étages-là qui existent dans la forêt, et ensuite dans chaque étage, avoir des différentes générations. On ne voit pas la différence, même si on prélève du bois, parce qu'à chaque fois les étages se chevauchent et se remplacent, et donc elle est en évolution permanente, même si on prélève du bois dedans. C'est dur pour nous parce que ce travail-là, on n'en profite pas tout de suite. Donc en fait, on est obligé de recréer et réencourager la biodiversité. Et c'est vrai que c'est pas facile parce que c'est un résultat qu'on ne voit pas de suite. Mais après, il y a effectivement les autres qui sont là pour gagner des sous. Et là, la production, la productivité, ils n'ont que ça comme objectif, quoi. Donc d'avoir des sous immédiats. Le résultat, c'est que sur une période de 30 ans, eh ben, en fait, ils auront gagné un tiers de moins en sous parce que simplement la régénération est beaucoup plus petite, plus faible. Et les rendements d'exploitation dans du bois petit sont forcément plus petits. Donc ils regardent qu'à court terme, et là ce qu'on essaie de faire c'est ça, c'est de leur montrer qu'à long terme c'est beaucoup plus intéressant. Mais c'est vrai qu'il faut les impliquer dans une démarche qui ne les concerne pas que eux.
Pascal Menon vit dans une forêt sur un plateau de plus de 1000 mètres d'altitude qui domine la vallée de la Durance au nord de Sisteron.
Je suis dans une chênaie qui prend de la maturité, j'y suis pour rien. Et pour la chênaie blanche, il y a vraiment, c'est là le drame des coupes à blanc, parce que souvent elle se situe entre 40 et 60 ans. Et au niveau de cette chênaie, à partir de 60 ans, il se passe quelque chose. Il y a vraiment l'élagage naturel et une maturation dans le sol. Et là, c'est tout qui est en train de sortir. Là-haut, il y a du sycomore, tu peux chercher le semencier à des kilomètres, il n'y en a pas. Il y a de tout, de l'érable, du frêne, du tilleul, du noyer, il y a vraiment tout qui vient sur la chênaie. Et ça se passe, tac. Il y a du chêne, il y a eu une très bonne glandée avec de la pluie, et le chêne sous chêne, il vient très bien. Mais il ne vient pas sous un taillis trop jeune.
Ce que Pascal dit sur la maturation, ça c'est une réalité scientifique. Hein. Moi je peux vous sortir plein d'articles parce que j'avais bossé là-dessus à l'université. C'est à partir de 60-70 ans, il y a vraiment au niveau écologique, donc au niveau de toute la biocénose, les insectes, les oiseaux et la végétation, il y a vraiment des changements qui s'introduisent. Hein, et on a des nouvelles espèces qui arrivent.
Le réseau pour les alternatives forestières a été créé en 2008 à l'initiative de Gaëtan Dubus, ingénieur forestier indépendant basé dans l'Aude. Il nous rappelle ce qui l'a motivé à lancer ce projet en commençant par le constat négatif qu'il a pu faire de la situation actuelle.
Moi je le vois surtout dans ce qui est en train de se produire en termes de concentration et d'homogénéisation des propositions de gestion. Voilà, ce que je constate c'est que la filière bois et donc les écosystèmes et ceux qui travaillent en forêt finissent par être pilotés par une sorte de besoin d'être compétitif sur la scène internationale par rapport à des critères boursiers et financiers qui sont définis complètement sans tenir compte des réalités de terrain, hein, de ce que peut offrir un écosystème et de ce qui est réaliste pour un bûcheron, pour un débardeur, jour après jour, pour respecter ses conditions de vie, ses conditions familiales, etc. C'est comme si ce que demandent les actionnaires à n'importe quelle entreprise de production de médicaments ou de chaussures ou n'importe quoi, on va l'appliquer à la forêt, on va exiger un pourcentage de revenus. D'ailleurs, ça se produit comme ça dans certaines structures de propriété forestière. On va exiger un pourcentage et tout le reste va devoir s'adapter à ça. Donc on va vendre le bois n'importe où dans le monde pour réaliser ce pourcentage de production financière du capital. Et l'écosystème et ceux qui y travaillent vont devoir s'adapter à cette logique financière. À partir du moment où on a des grosses structures qui consomment des grandes quantités de bois et qui se spécialisent dans la production d'un ou de deux ou de trois produits, pour faire des économies d'échelle, elles ont besoin d'un produit très homogène et facilement exploitable. Donc, elles valorisent très peu la diversité des ressources forestières. Et elles finissent par piloter la plantation, les travaux ultérieurs et l'exploitation des forêts en exigeant un produit homogène. Et ça, effectivement, ça me touche, puisque la forêt, enfin l'écosystème, par définition, est hétérogène et produit de l'hétérogénéité. Donc il y a beaucoup de gaspillage.
Mais je pense qu'il y a un autre aspect encore. C'est à la première rencontre, quand on était à Sainte-Afrique, en fait, il y a quelqu'un qui a parlé, qui a expliqué que toute la filière du bois en France, elle a été complètement déstructurée. Je ne sais pas dans quel espace-temps ça s'est fait, quoi. Est-ce que c'est depuis 20 ans ou 30 ans? Si maintenant il y a ce fonctionnement, c'est aussi parce qu'on a détruit le fonctionnement d'avant, non? Avec beaucoup de petites scieries, de transformations, etc. Que ça n'existe plus.
Pour moi, et je ne suis pas le seul à penser ça, il y a une sorte de planification, de la simplification de la filière. Mais ce qui a évidemment été dans ce sens-là, c'est le transport des bois. À partir du moment où on a importé du bois tropical et où, les zones méditerranéennes, par exemple, ou le sud-ouest, hein, les zones du sud, ont pu avoir accès à du chêne de Bourgogne ou à du Douglas du Limousin, elles ont considéré que leurs ressources étaient mauvaises. Et donc, sur le marché local, on va dire, elle était plus intéressante. Et donc, progressivement, les scieurs qui fonctionnaient avec cette ressource-là n'ont plus de marché. Donc, on est devenu de plus en plus exigeant. Et pour chaque usage, il y avait des critères trop précis pour être satisfait localement. Et toutes les petites structures de valorisation, les scieries en particulier, hein, ont chuté, quoi. Il y avait à peu près 10 000 scieries dans les années 60. Et puis aujourd'hui, il y en a à peine 2 000, quoi. Donc divisé par 5, ça, c'est quand même une chute qui fait mal à la valorisation de la diversité des ressources.
Plus généralement, je veux dire, la forêt, c'est quand même une surface extrêmement importante et que les gens voient et quelque part, ils aiment la forêt. Enfin, beaucoup de gens aiment balader dans la forêt, etc. Mais c'est presque pas un débat. Je veux dire, l'agriculture en France, il y a vraiment des débats. Je veux dire, il y a aussi une organisation comme la Confédération Paysanne, il y a l'agriculture biologique, il y a des AMAP maintenant, il y a l'alimentation est un réel souci pour pas mal de gens. Et un vrai débat, il y a des tensions au niveau politique, hein, etc. Or, la forêt, c'est pas ça. Hein.
La tension a surtout porté sur les écosystèmes forestiers tropicaux. Bon, ça s'explique, hein. Effectivement, il y a eu des dégâts gigantesques. Et puis, faire une coupe rase dans un écosystème tropical, il faut le dire, c'est beaucoup plus grave que dans un écosystème tempéré et encore plus grave que dans un écosystème boréal. Pourquoi ? Tout simplement parce que les sols tropicaux sont très très minces. Et dès qu'on les découvre, la mortalité est très rapide. Mais ce n'est pas une raison pour se désintéresser de ce qui se passe en Europe et en particulier en France. Puisque à terme, hein, en plusieurs siècles, on peut avoir des dégradations qui sont extrêmement durables, qui sont définitives. On sait qu'il y a des sols agricoles qui sont morts, eh bien ça peut se passer en forêt. Et moi, si aujourd'hui je souhaite développer un réseau de réflexion, un groupe de travail vraiment sur les alternatives forestières, c'est parce que je sens qu'on va vers ça. On a des sols qui sont, après trois générations de résineux, enfin d'épicéa en l'occurrence, on a des sols qui sont tellement acides que l'eau qui passe par ces sols devient imbuvable, par exemple. Ou on a des dépérissements en hêtres, par exemple, qui sont tellement intenses qu'on sait qu'on va devoir chauler et voir à terme fertiliser.
Chauler, ça veut dire quoi ?
Chauler, apporter de la chaux. Et donc, je ne souhaite pas qu'on aille dans cette direction-là. C'est-à-dire qu'il n'existe plus que des forêts qui sont entretenues artificiellement, comme ça se fait dans la Beauce ou dans les territoires agricoles intensifs. Alors, il n'y aura plus que de la liniculture, quoi.
Donc, s'il y a un réseau, c'est que quand même, il y a des gens qui font autrement, enfin, en tout cas, ou qui réfléchissent à les questions. Mais actuellement, c'est plutôt des gens très isolés l'un de l'autre. Enfin, c'est pas facile de tenir le coup, quoi, d'essayer de travailler dans la forêt vraiment autrement, aussi avec les prix qu'on peut recevoir, par exemple, pour le bois de chauffage ou autre.
Oui, moi, je constate, en parlant avec les forestiers, qu'il y a beaucoup de forestiers qui souffrent d'une sorte de tension très, très forte entre leur idéal, on va dire l'image qu'ils avaient de leur métier étant jeunes, donc au moment où ils ont choisi ce métier-là, au moment où ils l'ont commencé, et puis leur pratique quotidienne. Et à tous les niveaux, que ce soit le bûcheron quand il fait une coupe rase, et quand il empile les coupes rases l'une après l'autre, que ce soit le technicien qui est mis sous pression pour mobiliser du bois et que sa fonction s'arrête là, quoi. C'est pas une fonction de sylviculteur, c'est une fonction de commercial, quoi. Ou que ce soit des administratifs qui sont obligés, on va dire, d'appliquer parfois des régimes de subvention ou des régimes de cadrage ou plutôt de non-cadrage de la gestion forestière, hein, c'est un peu ça, qui vont en contradiction avec les discours environnementaux qu'on va entendre au Grenelle dans l'environnement ou ailleurs. Il y a des incohérences très fortes, quoi, entre le laxisme complet qu'on va laisser face à des coupes rases énormes, par exemple, et les discours en faveur de la biodiversité. Il y a pas mal de techniciens intelligents qui sont l'otage de cette contradiction. Le débat sur est-ce que l'ONF est privatisé ou va être privatisé, pour moi, il faut dépasser ça, la question n'est pas là, quoi, parce que c'est une espèce de structure qui a un caractère mixte, complètement mixte en ce moment. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que finalement les techniciens, les agents, les ingénieurs de l'ONF vivent aujourd'hui. Et ce qu'ils vivent, et ils l'ont bien montré dans les manifestations récentes, ce qu'ils vivent, c'est une augmentation de la pression, et donc des prélèvements en forêt, une concentration des efforts de gestion sur les écosystèmes productifs et des contradictions entre une obligation, on va voir, de faire respecter des critères de biodiversité, un peu du saupoudrage, et par ailleurs, une obligation de faire du chiffre. Là, il y a des tensions qui deviennent assez invivables, quoi. Alors ça, c'est le côté de l'ONF. Bon, les coopératives, ce que les techniciens vivent dans les coopératives, moi je suis vraiment au fait de cela parce qu'il y a des techniciens qui sont des forestiers intelligents, c'est qu'on leur demande de plus en plus, je le disais tout à l'heure, de faire du chiffre, hein, de mobiliser du bois et de se désintéresser de l'effort d'amélioration, hein, de l'effort de soin aux écosystèmes qui permet d'aller vers le long terme. Et plus grave encore, à mon sens, c'est la situation des techniciens des centres régionaux de la propriété forestière. Puisqu'on les force de plus en plus, hein, en fonction des régions, en fonction des individus qui sont à la tête de ces structures, on va les forcer à collaborer de manière intensive avec les coopératives, et donc en définitive avec les industriels, pour être les VRP de la filière bois, pour rabattre toute la ressource vers les coopératives. À tel point qu'il y a des plans de développement de massifs ou des programmes Espace 2000 ou des chartes forestières de territoire qui sont pilotés conjointement par le CRPF et par les coopératives, de telle manière que sur le terrain, les propriétaires forestiers ont un seul interlocuteur pour la valorisation de leur bois, c'est la coopérative, et derrière la coopérative, l'outil industriel de valorisation, hein, des scieries qui ont pour objectif d'atteindre 1 million de mètres cubes par an, quoi. Il y a une sorte de pensée unique qui est en train de s'installer progressivement, qui exclut toutes les propositions alternatives, la diversité des propositions. Et moi, ce qui m'intéresse dans le développement de ce réseau-là pour les alternatives forestières, c'est très simple, hein, c'est une revendication qui me paraît évidente dans un système libéral, puisqu'on est dans un système libéral, c'est que le propriétaire, celui qui a la responsabilité de la terre, ait le choix entre différentes propositions. Puisqu'on est dans un système libéral allant jusqu'au bout, hein, on ne va pas faire du collectivisme, le propriétaire, on lui dit, voilà, vous voulez valoriser votre bois, très très bien, ça c'est la fonction du CRPF, c'est un organisme public, hein. Donc la mission d'un organisme public, c'est d'informer. Vous avez plusieurs propositions, et comparez les propositions, choisissez celle qui vous convient, de lui faire prendre conscience qu'il y a différents acteurs, il y a des techniciens forestiers indépendants, des ingénieurs, des bûcherons qui font très bien leur travail avec lesquels ils peuvent fonctionner en direct. Il y a plein de propositions. La réalité, elle est là. Il y a des propositions diversifiées. Mais on canalise complètement la valorisation vers l'outil industriel parce que cet outil industriel veut faire des économies d'échelle et qu'on a décidé quelque part que plus la structure était importante, plus elle avait des économies d'échelle, et donc plus elle était compétitive sur la scène internationale. Moi, ce que je défends, c'est qu'il y a un autre modèle possible.
Il faut quand même peut-être aussi dire qu'il y a, je ne sais pas si on peut les appeler des électrons libres, mais c'est un peu ça parfois, mais soit des individus, soit des petits groupes, ou des associations, ou enfin des petites entreprises, mais qui essayent vraiment d'aller dans un autre sens, mais qui sont relativement isolés l'un de l'autre, mais voilà, que le réseau essaye de mettre ensemble.
Oui, c'est-à-dire sur le terrain, que ce soit des petits scieurs, des petites entreprises de sylviculture, donc de travaux forestiers ou des petits exploitants, des artisans du bois, des techniciens, il y a des gens qui prennent le risque, il faut dire ce qui est, qui prennent vraiment le risque de faire un travail fin, de valoriser la diversité des ressources, de faire des opérations douces, hein, en respectant l'écosystème, en respectant tout ce qui nous offre comme diversité, et tout le soin qu'il faut lui apporter. Et quand je dis « prennent le risque d'eux », c'est que bien souvent, on s'attire des difficultés techniques, voire économiques. Et certains le font jusqu'à s'épuiser, et certains le font quelques années et s'arrêtent parce qu'ils se sentent trop isolés dans cette démarche-là. Ce qui m'a poussé, il faut le dire, à créer ça, c'est de voir des bûcherons, des sylviculteurs amoureux de la forêt, vraiment amoureux de la forêt et travaillant très bien, s'arrêter après quelques années. Tout simplement parce que la façon dont ils travaillaient n'était pas reconnue, autant par les pouvoirs publics, c'est-à-dire par les modèles de subvention et d'aide pilotés par les DRAF ou par l'État, et n'était pas reconnue par les techniciens forestiers, et qu'on n'était pas capable de donner, par exemple, 2 ou 3 euros de plus par mètre cube pour faire un débardage à cheval, qui n'a rien à voir avec un débardage mécanisé. En termes de qualité du travail, ça n'a rien à voir. Et donc, moi, je milite pour qu'on reconnaisse la qualité de ce travail-là.
On les traite parfois même comme de farfelus, quoi. C'est vraiment parfois très dur parce qu'ils ne sont pas pris au sérieux.
Oui, ils ne sont pas pris au sérieux, et on se demande pourquoi. Parce que moi, je suis vraiment convaincu que quand on gratte un peu, la plupart des forestiers reconnaîtront qu'effectivement, c'est un travail qui, en termes de qualité, n'a rien à voir. Alors moi, je me demande comment ils peuvent faire coexister en eux-mêmes cette conscience qu'on travaille bien mieux comme ça, on est de bien meilleurs forestiers, avec leur pratique quotidienne, où ils mettent la pression sur les prix, où on embauche de la main-d'œuvre très peu qualifiée, parce qu'en définitive, c'est la seule qui accepte les prix bas qu'on propose, quoi. Donc comment on est capable d'être aussi ambigu?
Un autre aspect du réseau qui est intéressant, on voit qu'il y a d'une part des gens qui travaillent d'une manière différente, mais on sent qu'en face, il y a des gens qui ne travaillent pas du tout dans la forêt, mais qui sont dégoûtés, on peut dire dégoûtés, quoi, par ce qu'ils aperçoivent dans la forêt, les dégâts, les coupes rases, les destructions. Ils n'arrivent pas à comprendre ça, ils trouvent que ce n'est pas comme ça qu'il faudrait agir. Et on sent qu'il y a une espèce de début de colère qui monte et des gens qui voudraient se mettre ensemble pour chercher les moyens de gérer des forêts, même à petite échelle, mais de gérer des forêts autrement.
Oui, moi je le sens depuis quelques années. Pour moi, la différence fondamentale entre ce qui s'est passé depuis les années 60-70 et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est passé d'une contestation écologiste à une volonté de prendre en main la question foncière de la forêt. Et là, ça m'intéresse. C'est-à-dire, quand il s'agit de contester ce que font les forestiers avec des arguments écologistes, à un certain moment, on a du mal à être crédible. Parce que c'est deux logiques qui, malheureusement, s'opposent. Quand il s'agit d'une conscience citoyenne et d'un intérêt réel pour, mais c'est quoi ? C'est quoi l'écosystème forestier ? C'est quoi la gestion d'une forêt ? Comment je peux m'y investir ? Le bois, ça m'intéresse, j'aime bien le bois, j'aime bien le bois de chauffage, j'aime bien avoir une maison en bois, mais d'où il vient mon bois? Là, je trouve qu'on passe un cap. C'est-à-dire qu'on s'approprie la terminologie de la gestion forestière, on s'approprie toute la logique de la filière, et là, on est vraiment fort. On est vraiment fort parce que ce qui a, à mon avis, empêché l'évolution du débat sur la gestion forestière, c'est une volonté de garder les gens dans l'ignorance, avec un jargon complètement imbuvable. Moi, j'ai vu ça fortement quand j'ai travaillé sur la forêt paysanne, où vous avez toute une série de publications qui estiment que, de toute façon, les agriculteurs, à partir du moment où ils n'ont pas la terminologie correcte, ils n'ont pas de système de gestion forestière, hein, puisqu'ils ne savent pas parler la bonne langue, ben, c'est qu'ils ne savent pas gérer la forêt. C'est absurde. Donc, on a quelque part maintenu les gens dans une certaine ignorance, ce qui fait que c'est comme le phénomène des OGM, quoi, hein. Si vous n'êtes pas généticien, vous n'avez pas le droit d'avoir un avis sur les OGM. Bon, là, c'était pareil. Puisque vous n'êtes pas forestier, comment pouvez-vous vous permettre d'avoir un avis sur la gestion forestière ? Moi, aujourd'hui, je souhaite que les propriétaires forestiers, autant que ceux qui s'intéressent à la forêt sans la maîtriser sur le plan foncier, aient les outils pour comprendre réellement ce que c'est les tenants aboutissants d'une gestion forestière, et y réfléchir et à participer au débat, y compris dans les éléments techniques. C'est là qu'il y aura réellement un échange sur l'avenir de la forêt et l'avenir de la gestion forestière en France.
Ce qui pourrait, par exemple, se passer au niveau d'une commune.
Tout à fait, oui. Moi, j'ai travaillé 4 ans pour l'aménagement des forêts communales. Je trouvais que c'était un cas très intéressant d'échange à un niveau local, des différentes visions du présent, de l'avenir d'une forêt. Mais il faut que les forestiers jouent le jeu. Ça veut dire quoi pour moi? Ça veut dire avoir le plaisir de transmettre un savoir-faire, un savoir, et pas le garder pour soi.
Venons-en maintenant à quelques initiatives qui participent au réseau. Fred Lejouez fait partie de l'équipe de l'entreprise Eurosilva qui cherche à développer des méthodes de travail plus respectueuses des écosystèmes forestiers. C'est Eurosilva qui mène une grande partie des travaux sur le domaine que nous avons visité lors de la rencontre à Rodez.
Mais nos activités, c'est tout ce qui touche à la sylviculture, c'est-à-dire de la plantation de l'arbre jusqu'à ce qui est l'action de première, ce qu'on appelle la première éclaircie ou la première utilisation du bois avec une rentrée d'argent pour le propriétaire. C'est-à-dire on élève, on éduque l'arbre jusqu'à ce qu'il soit vendable. Donc ça passe par toute une approche forestière qui est assez complexe parce qu'il faut analyser tout un panel de paramètres qui vont du climat au sol, aux essences, aux régions, aux volontés du propriétaire aussi, on est obligé de passer par là, parce que donc on est prestataire de services, on travaille toujours chez des privés, quoi. Donc voilà pour ce qui est de notre activité.
Ça a été créé quand ?
Et alors ouais, donc Eurosilva, ça a été créé en 92. C'est l'héritage en fait d'une structure qui existait avant, qui s'appelait le Groupe Bois, qui était une association qui regroupait des copains, des gens qui travaillaient dans les bois, avec un engagement politique qui tend vers l'autogestion, vers l'autogestion, quoi.
C'est une entreprise, bien sûr, mais c'est une entreprise relativement atypique, si je comprends bien, parce que déjà, voilà, encore maintenant, il y a des manières de travailler, c'est-à-dire par rapport au salaire, je veux dire relativement l'égalité des salaires, si j'ai bien compris, et puis il y a aussi à géométrie variable, quelque part, il y a pas toujours le même groupe de gens qui travaillent, il y a des gens qui travaillent sur certains chantiers, etc.
Le principe de base, on va dire, c'est l'égalité des salaires. On est tous vraiment, que ce soit un débutant ou moi, qui ça fait 4 ans que je suis dans la boîte, on est tous au même taux horaire, quoi. Il y a les 160 premières heures, mais bon, c'est classique de formation. Le premier mois, on va dire, qui est un peu en dessous, mais après, on est tous sur la même base horaire. Donc ça, c'est déjà une particularité qui n'est pas commune, quoi, dans les entreprises qui défendent un système d'autogestion, quoi. Ça simplifie beaucoup de rapports humains, en fait, entre nous. Parce que le principe aussi, à travers ça, c'est d'essayer qu'il n'y ait pas de rapport hiérarchique entre le donneur d'ordre, le technicien, l'ouvrier forestier. On essaye de casser ce système, quoi.
Il y a quelques personnes, j'imagine, toi peut-être tu fais partie, mais qui sont plus ou moins fixes, je veux dire, travaillent vraiment quasi à plein temps, quoi, pour Eurosilva. Et puis après, il y a d'autres qui peuvent être appelés ou qui demandent ou qui voudraient travailler sur tel chantier, mais que pour quelques semaines ou un truc comme ça.
Notre deuxième particularité, c'est que c'est un travail à temps choisi, c'est-à-dire que c'est des travaux donc souvent en déplacement, donc avec un chantier précis. Donc les copains qui travaillent avec nous, ils peuvent venir par exemple mars-avril, ils disent « moi je suis disponible », ils viennent sur les chantiers qui se passent en mars-avril. Et après, ils font autre chose. Et... Donc, il y a vraiment le travail de chantier, donc, qui est à temps choisi. Moi, c'est un peu particulier. On est deux comme ça à être plus quasiment à temps plein. parce que ça demande évidemment toute une organisation, ce travail de terrain qui est de la paperasserie, du bureau, des devis, de la coordination, de la gestion. Et voilà, donc on est deux techniciens à proprement parler forestiers. Voilà, c'est comme ça que c'est défini, même par nos diplômes. Moi, je fais les deux, quoi. Je suis en chantier, et quand je suis pas en chantier, je suis au bureau pour mettre en musique tous ces chantiers, quoi.
Et vous intervenez dans toute une région assez importante ou plutôt localement, ou c'est comment ça se passe ?
On travaille sur tout le territoire français, oui. Donc on est basé en Aveyron, là, à côté de Rodez. On travaille beaucoup sur les territoires limitrophes, c'est la Lozère, le Tarn, le Cantal, mais aussi dans les Vosges, aussi dans la Bourgogne, le Limousin. C'est donc faut trouver un donneur d'ordre qui nous connaisse et qui nous sollicite pour un chantier de sylviculture, quoi. Voilà, donc c'est souvent des experts forestiers qui ont en charge la gestion de propriétés privées, des ingénieurs indépendants et des propriétaires à leur propre initiative qui ont besoin d'une mission précise, quoi, dans leur forêt.
Parce qu'il faut dire que c'est une démarche qui est pas très courante. Je veux dire, quand on regarde ce qui se passe dans les forêts françaises, c'est pas très réjouissant. Il y a beaucoup de... Bon, voilà, la coupe rase, c'est un peu partout. Et c'est un peu des méthodes que vous essayez de dépasser, de faire autre chose. Et donc, vous arrivez à trouver des ingénieurs ou des experts forestiers ou je sais pas quoi, des gens qui gèrent des forêts, que c'est des idées qui vous conviennent, en gros.
C'est sûr que quand on est amené à travailler en forêt, on a tous une sensibilité qui va vers un système un peu plus équilibré que les grandes forêts monospécifiques, c'est-à-dire à une seule essence et avec des systèmes de coupe rase où il faut des systèmes très, très surfaits comme ça qui sont pas réjouissants, quoi, pour un travailleur forestier. Enfin, on souhaite, dans les missions qu'on mène, amener une autre vision du travail de sylviculture, notamment par, on va dire, la professionnalisation des copains qui travaillent avec tous ensemble, là, de transmission de savoir pour arriver à faire un travail plus intelligent, quoi. Par exemple, je peux vous donner un exemple. On fait beaucoup d'opérations de dépressage, c'est-à-dire on passe dans les plantations une dizaine, 10, 15 ans après qu'elles aient été plantées, et on sélectionne les tiges qui feront un peu le peuplement d'avenir, la forêt future. Et dans ces opérations, on prend bien garde de conserver ce qui a pu repousser naturellement, c'est-à-dire du hêtre, des fruitiers, des sorbiers, des alisiers, qui n'ont pas forcément une valeur économique, mais qui peuvent être là et gêner personne et donner à manger à des oiseaux, faire ce qui plaît à toute personne qui bosse dans les bois, qui est quand même touchée par ce milieu, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas simple, ça, hein, parce qu'on est amené quand même à faire des travaux très classiques de plantation avec une seule essence. Ça fait partie des réalités de la foresterie en France à l'heure actuelle, et on n'est pas complètement en dehors de ce système.
Jusqu'à quel point vous pouvez apporter vos points de vue ou votre approche, hein, ou est-ce que vous êtes simplement des personnes qui suivent un peu les ordres, qui viennent de tel ou tel expert ou qui gèrent des forêts, ou est-ce qu'il y a un débat ?
En général, quand on a un chantier, on doit suivre les objectifs de l'expert ou du propriétaire, les volontés du propriétaire. Après, nous, on est là pour le conseiller. Et ça arrive souvent qu'on discute avec le proprio, que les choses évoluent, que peut-être dans un premier temps, on va faire ce qu'il nous a demandé, mais nous, on propose des choses et qui peuvent être l'occasion de prolonger le chantier, de faire un petit travail de diversification sur une zone auquel il n'aurait pas pensé. Ça fait partie de l'engagement des gens avec le milieu dans lequel ils travaillent et de ne pas se tenir à ce qu'on leur demande de faire.
Vous êtes combien, en fait, à peu près, quoi, à être impliqué par la démarche Eurosylvain ?
On est une petite vingtaine, entre 15 et 20, et c'est-à-dire en permanence, vu qu'on est à temps choisi, il y a entre 8 et 10 personnes qui travaillent, ça fait 8 à 10 temps plein par an, quoi. Entre les personnes plus au bureau, comme moi, une secrétaire comptable qui est en permanence au bureau, la gérante, parce que donc on a un statut SARL qui correspond mieux à ce système de travail à temps choisi où les gens ne peuvent pas s'impliquer toute l'année dans une SCOPE aurait été une idée intéressante auquel on a pensé, mais il faut être impliqué toute l'année. Donc la SARL nous donne une structure légale, un support légal qui nous va bien.
Juste un mot sur le travail avec Alain Christophe, c'est a l'air d'être quelqu'un, voilà, il est sorti lui-même un peu des... Il était lui-même bûcheron un certain nombre d'années, donc visiblement il sort pas vraiment de, je sais pas, pas les grandes écoles, mais les écoles de foresterie où parfois c'est très formaté. Vous faites quand même pas mal de travail avec lui, non ?
Oui, c'est un de nos principaux donneurs d'ordre qui fait partie des membres actifs, des gens qui ont créé cette entreprise au départ. avant que ça s'appelle Eurosilva. C'est vrai que la forêt est un milieu au niveau de l'entreprise, les ouvriers forestiers, c'est une calamité. C'est au niveau humain et rémunération du travail, on est la lead de l'économie quoi, en France. En général, c'est des équipes souvent de gens qui viennent du Maroc ou de Turquie ou de Portugal. On est certainement une des seules entreprises de sylviculture en France qui a ce système de respect. Ça passe par évidemment une collaboration proche avec les gens qui nous donnent le travail. Du fait qu'on est aussi payé à l'heure et non à la tâche, c'est une évolution importante dans le travail en forêt. Une qualité, un rendu de travail qui n'est pas négligeable et qui est mise en avant et qui nous permet aussi de trouver des chantiers. Quoi.
Vous n'avez pas de difficulté à trouver des chantiers hein?
On y arrive. On y arrive, c'est pas tous les jours facile. Mais si, on explique notre façon de voir les choses et ça marche. Ouais, plutôt pas mal même. Il y a eu des périodes difficiles de paiement, c'est comme toutes les entreprises. Mais on y arrive, si, on s'en sort. Voilà, on n'a pas des bureaux flambant neufs ni du matériel informatique, mais on s'en sort, on se débrouille.
Marie Classin a aussi participé aux réunions du réseau. Elle est propriétaire d'un petit domaine de forêt en Dordogne et elle est très connue dans la région parce qu'elle a mené, pendant 3 ans, avec d'autres, une lutte acharnée contre l'installation en Dordogne d'un circuit automobile qui allait devenir le deuxième plus important de France. Peu après avoir gagné ce combat, elle a trouvé une nouvelle campagne à mener. Choquée par le niveau de destruction dans les forêts de la région, elle a décidé de créer une association, Forêt sans âge, avec le but de chercher des alternatives.
On ne va pas se battre contre le système en place, mais on va proposer une alternative. Et donc, comme on avait déjà un réseau qui était créé sur le nord d'Ordogne, qui avait combattu contre un projet funeste, donc on s'est appuyé sur ce réseau-là pour provoquer la première réunion d'information. Et il y avait beaucoup de monde et c'était assez intéressant parce que les gens sont demandeurs pour comprendre d'abord, comprendre ce qui se passe. Et puis, on s'est adressé aussi aux propriétaires, aux petits propriétaires. Ils sont tout à fait démunis, soit ils ont hérité de ça, soit ils ont acheté par amour de la forêt. Et puis, ils se disent, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on peut laisser notre forêt comme ça, sans intervenir? Est-ce que c'est bien, c'est mal? Ils se sentent responsables.
C'est bien de préciser, je crois que de la Dordogne, c'est vraiment énormément de petits propriétaires et énormément de forêts privées.
Oui, c'est ça, hein. 19% ou 18%, c'est de la forêt privée, et avec des parcelles très petites, de l'ordre d'un peu plus d'un hectare, entre 1 et 2 hectares, la moyenne. Hein. Ça veut dire qu'il y en a qui sont plus petits. Bon, il y a quelques grosses parcelles, des domaines. Et puis les gens sont très attachés à ces espaces boisés, parce que souvent, ça leur permet de chercher du bois, pour le bois de chauffage, les champignons. Et il y a un amour dans cette région-là de la forêt. Il y a énormément de promeneurs. Si on veut informer, il faut d'abord qu'on soit compétent. Et c'est pour ça qu'on assiste à différentes réunions, qu'on invite différents experts pour nous éclairer un peu sur tous les enjeux, surtout sur ce qu'il ne faut pas faire, et surtout pour montrer qu'il y a des alternatives crédibles. Crédibles au niveau économique, crédibles au niveau écologique. Et quand je dis crédibles au niveau économique, c'est sûr que ceux qui veulent faire un profit à très court terme, il ne faut pas qu'ils s'adressent à nous. Ce n'est pas ça. D'ailleurs, beaucoup de petits propriétaires n'ont pas envie de ça. Pour eux, c'est surtout équilibrer les recettes et les dépenses, mais surtout sauvegarder la forêt telle qu'ils la connaissent, c'est-à-dire avec leur diversité et aussi, je dirais, cette proximité par rapport à leur lieu de vie. Et une autre idée, c'est de se dire, ensemble, on pourrait acquérir des espaces forestiers, comme des espaces un peu témoins, pour montrer qu'on peut présenter une autre gestion, même à une échelle plus grande que de 2 hectares. Parce qu'en fait, 2 hectares à gérer, c'est très difficile. Mais montrer que sur 50, 60 hectares, on peut non seulement gérer, mais faire même vivre certaines personnes. Alors, bon, nous, le monde associatif, on est là pour montrer qu'il y a des alternatives et que c'est viable, voilà.
Comment vous allez continuer maintenant? Je veux dire, parce que je crois qu'il y avait beaucoup d'opposition, hein, je suis bien compris, il y avait quand même des gens qui sont venus à une réunion que vous avez organisée localement, et Et ça a l'air de susciter pas mal de, je ne sais pas si c'est des craintes ou alors de colère ou quelque chose de côté de l'industrie.
Oui, en fait, notre première réunion qui se voulait une réunion d'information, c'est-à-dire faire découvrir un peu le monde forestier. Pas du tout dans le sens d'une attaque, hein, c'est-à-dire comment ça fonctionnait, quels étaient les partenaires et aussi les subventions, enfin bon. Il y a des gens un peu, enfin du CRPF qui sont arrivés, il y a des gens du Conseil Général, il y a des gens aussi de la CAFSA et tout. Alors là, c'est une coopérative forestière, quoi. C'est elle qui se charge de tous les travaux et de mettre à blanc vos espaces, hein. Et donc, ils étaient terriblement agressifs, mais vraiment très agressifs, en disant « on ne peut pas vous laisser dire des choses comme ça ». Et après coup, ils ont été voir l'animateur, ils ont dit « ben oui, vous avez raison ». Donc il y avait une volonté, quelque part, de saper cette initiative nouvelle. Ils n'étaient pas invités, en plus, hein. Pourquoi ? Parce que je me suis dit « pourquoi cette violence-là » En fait, eux, ils vont voir les petits propriétaires pour deux raisons. Pour dire « vous avez un espace forestier juste à côté d'une parcelle qu'on voudrait travailler, donc on voudrait... » regrouper, hein, et les pousser aussi à vendre leur bois. Mais en tout cas, à regrouper les parcelles pour justement faire travailler et exploiter comme ils l'entendent ces surfaces. Et nous, qu'est-ce qu'on dit aux propriétaires ? Regardez, il y a une alternative et on vous met en situation de choix. Et ça, on sentait que pour de l'autre côté, c'était insoutenable qu'on puisse imaginer, proposer à des petits propriétaires une alternative parce que c'est comme si on leur enlevait des clients.
Cette histoire d'acquérir, est-ce que ça, c'est juste une idée ? Parce que ce n'est pas évident, je pense, non plus.
Ah non, ce n'est pas évident parce qu'en fait, bon, y a des gens qui sont prêts à mettre de l'argent, mais trouver un espace forestier, ce n'est pas évident du tout. Surtout que le CRPF pousse très très fort les communes à acheter du bois pour leur laisser la gestion à l'ONF. Alors c'est assez compliqué parce qu'on entre en concurrence presque avec les communes. Mais si les communes le faisaient d'une façon... très saine. On applaudit, nous on n'a plus le besoin d'exister. Mais quand on voit un peu certaines pratiques forestières actuelles, dirigées par des organismes de l'État, ça nous fait vraiment très très peur. Ce qu'on va faire, c'est d'abord essayer de se faire connaître de plus en plus, créer des outils pour que l'information puisse passer, la plus large possible, mettre en réseau, et aussi dire notre envie collective d'acquérir des bois. Hein, non seulement il y aura une aide à tous les petits propriétaires, mais il y aura aussi cette action collective.
Un autre composant important du réseau, la menuiserie, un travail en aval de l'exploitation forestière qui représente un élément clé de la filière bois. Écoutons Bernard Duplan, menuisier installé dans l'Hérault.
J'ai eu la chance de rencontrer Gaëtan il y a 2 ans de ça, et il y avait quand même une aspiration à la base de me tourner vers le bois vivant, sachant que le but de départ était de se dire, au jour d'aujourd'hui, on est capable de mener une activité économiquement viable et complètement inséré dans un standard que l'on connaît, qui est la menuiserie, sans pour autant pourrir tout ce qu'on a autour de nous et en s'inscrivant dans un cercle naturel, au lieu de s'inscrire dans un côté translation où on dit je prends le bois à ce moment-là et je le livre à ce moment-là et ce qui se passe avant et après, ce n'est pas mon problème. Voilà. Je pense que c'est un petit peu la responsabilité de tout le monde de se dire ce qui se passe avant et ce qui se passe après, c'est aussi notre problème. Et on voit du début jusqu'à la fin tout ce qui se passe, et on en est responsable. De toute façon, qu'on l'admette ou pas, on est quand même responsable.
Parce qu'avant, quand tu travaillais comme menuisier, en fait, tu ne savais pas du tout d'où venait le bois, tu achetais ça sur le marché, c'est ça ou quoi ?
Alors, avant, je n'étais pas menuisier, avant, je fabriquais des machines industrielles. Et j'ai quitté, en fait, ce milieu-là, parce que j'y trouvais pas du tout mes marques, et puis j'avais un gros problème de conscience, et ça allait pas du tout. Donc, ça ne fait que 6 ans, en fait, que je travaille le bois, et 2 ans que je m'intéresse réellement à la sylviculture, à l'origine du bois, et essayer de connaître les tenants et les aboutissants de tout ce système qui est en fait celui où on vit, le milieu naturel, voilà. Donc, petit à petit, je fais de plus en plus attention et j'essaie de mener en fait une grosse discussion vis-à-vis des clients pour leur expliquer que le bois, ce n'est pas forcément un bois qui est abattu à la sauvage au Brésil ou en Afrique, mais ça peut être un bois qui vient tout simplement 10 km à côté de chez eux et qui, en termes de durée de vie, va dépendre de deux choses, je pense. C'est un, la façon dont a été traité ce bois avant d'arriver chez eux, et deux, la façon dont ils vont le traiter eux. Voilà. Et je leur montre en principe les menuiseries des papis et mamies qui sont leurs voisins et qui ont 100 ou 200 ans et qui fonctionnent très très bien.
Mais en fait, concrètement, ça veut dire quoi dans ton cas? Je veux dire, comment tu imagines faire pour arriver à aller vers le bois vivant, justement?
Alors, c'est déjà une démarche de connaissance, c'est ce que je fais au jour d'aujourd'hui, rencontrer des gens qui connaissent, qui savent, et m'imprégner de cette culture, et ensuite faire ma propre expérience. Donc, soit travailler avec des propriétaires, puisque apparemment il y a quand même pas mal de propriétaires forestiers qui ne font rien de leur bois, en leur demandant de pouvoir récupérer du bois contre bon soin de la forêt, c'est-à-dire sans entamer le capital bois de la forêt, je crois que c'est important, et se dire, cet arbre, dans ce milieu naturel, il a besoin de 60 ou 80 ans pour faire son cycle, donc il faut que l'utilisation qui va aller derrière ait une durée de vie minimum de 60 ou 80 ans, tout simplement, pour permettre la régénération et ne pas entamer ce capital vivant qui est là et ce don de la nature.
Mais l'autre idée, c'est, je crois, tu as aussi réfléchi à essayer de trouver un bout de forêt, quoi, éventuellement acquérir un bout et en fait, avec l'idée peut-être de partir de là, du bois que tu peux trouver là-dedans pour les travaux que tu vas faire comme menuisier, c'est ça?
Oui, alors ça c'était le côté un peu idyllique de l'affaire, dans le sens où financièrement, au jour d'aujourd'hui, je me trouve dans l'incapacité d'acheter un bout de forêt, surtout un joli bout de forêt. Voilà. On baisse pas les bras, on perd pas l'espoir, parce que c'est vrai que c'est au-delà du fait que ça nous appartienne, c'est pas tellement le problème, mais c'est surtout une garantie au niveau de la pérennité. Voilà, c'est-à-dire que si demain on travaille comme propriétaire, on n'est pas à l'abri qu'il y ait un héritage, un changement de propriétaire qui dise bon ben c'est bon, merci, au revoir, etc. Donc la propriété garantit un petit peu cette pérennité et nous permettrait ça. Mais encore, il faut trouver les sous, puis il faut trouver l'endroit.
Et quand tu parles avec les clients et tu expliques ça avec le bois du coin, en général, ils réagissent comment et ça leur intéresse, ils voudraient plutôt avoir un bois local ou...
Il y a quasiment, je pense, je dirais presque 100% des gens qui déjà sont tournés vers le bois, qui sont déjà réceptifs à l'information bois local. Voilà. C'est-à-dire que quand des gens me demandent du bois exotique, puisque ça arrive, de façon spécifique, je leur pose une question tout simple, je leur demande pourquoi. Et la plupart ne savent pas pourquoi. C'est parce qu'ils ont reçu un message en fait médiatique qui leur a martelé que c'était ce qu'on faisait de mieux. Et je leur dis, bah, écoutez, ouvrez les yeux, regardez à côté de vous, et puis les menuiseries que vous avez là, c'est du pin, c'est du noyer, c'est du chêne, c'est du châtaignier. Et puis ça fait des dizaines d'années que c'est là en place et que ça fonctionne. Ils sont tout à fait lucides, ils sont déjà réceptifs à ce message. Et en fait, je me retrouve avec quasiment 100% des gens qui approuvent le système et qui disent, bon, ben, on y va, allez-y. Voilà. Et ils me demandent bien sûr dans cette gamme de bois qu'est-ce qui est le plus approprié. Donc en ces cas-là, on part sur une relation de confiance où ils se tournent vers le technicien et ils disent « Bon, ok, on vous fait confiance, expliquez-nous, mais on vous suit. Voilà. » Et donc c'est vraiment encourageant.
Ce réseau-là, tu découvres aujourd'hui, pour toi, c'est un vrai sens que ça dépasse, disons, le côté forêt, parce que ça s'appelle Alternative Forestier, mais en fait, ce serait intéressant que ça couvre le filière, quoi, filière bois, qu'il y a de plus en plus de menuisiers et autres qui, peut-être, se mettent à avoir plus de relations avec des gens qui travaillent directement dans la forêt.
Oui, je pense que c'est une solution parce que en discutant un petit peu avec tous les gens justement de cette association, je m'aperçois qu'il y a une grosse difficulté au niveau de l'exploitation du bois qui est le prix de vente du bois avant l'utilisateur final qui peut être le menuisier ou le bricoleur tout simplement. Et on se trouve dans des chaînes où le prix final pourrait être inchangé, mais sur une chaîne commerciale plus courte et permettrait à tous les intervenants de gagner correctement leur vie et de pouvoir faire leur travail de façon décente et respectueuse de l'environnement. C'est un petit peu la problématique qu'on a soulevée cet après-midi en voyant qu'il y avait des bûcherons qui étaient là, mais ils étaient un petit peu sous-payés à la tâche et donc il fallait qu'ils fassent très vite et quelque part tous les arbres autour en pâtissent, et en général la forêt en pâtit, et nous-mêmes forcément, parce qu'on en dépend, quoi.
Ça change aussi les choses quand on peut livrer un objet, quoi. Ça peut être un meuble ou une fenêtre, et que quelque part les gens ils savent d'où vient le bois, non ?
Oui, oui, oui. Le côté, ce n'est plus une fenêtre, mais c'est la fenêtre, voilà. On est capable de dire à une personne, la fenêtre ou la porte que vous avez chez vous, elle a été construite à partir d'un arbre qui a poussé là, dans ce coin. Donc on peut même imaginer à l'extrême qu'une personne connaisse ce coin, aille se promener avec ses enfants dans ce coin-là, ait déjà vu cet arbre. On pourrait même pousser le vif jusqu'à présenter une photo de l'arbre, voilà. Ouais. Et dire, bon, c'est plus une fenêtre, mais c'est un morceau de l'arbre, c'est un petit peu de la nature qui vous a donné quelque chose pour que vous puissiez l'avoir chez vous. Et je ne pense pas que les gens traiteront en ces cas-là la fenêtre d'une même façon qu'une fenêtre IKEA, où on ne va surtout pas donner la photo en fait, du bûcheron sous-payé qui va être exploité et qui va couper des arbres centenaires à l'arrache à l'autre côté de la terre. Quoi. C'est sûr.
Et tu as donné un exemple, quand on était en train de balader dans la forêt, d'un cèdre qui avait... je crois, un nœud très particulier, enfin...
Donc la petite anecdote, en fait, c'est un client pour qui je faisais une devanture en bois pour son jardin, et lorsque je suis allé chercher, on avait fait un dessin tout à fait classique, et lorsque je suis allé chercher le bois chez le fournisseur, il venait de recevoir une petite bille de cèdre très particulière, et il y avait un nœud peut-être de 60 cm de diamètre, donc on va dire... pour la plupart des menuisiers, un énorme défaut, et en fait, c'était une énorme décoration. Et finalement, j'ai complètement changé, sans le dire à mon client, la balustrade, et je l'ai conçu avec cette planche en entière. C'est-à-dire, ce morceau de forêt qui arrivait chez lui, dans l'état le plus brut qu'il aurait pu le trouver, finalement, et puis ça a été un enchantement. Et c'est des gens qui sont très, 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 très fiers, aujourd'hui, de ce bout de bois. Il a été installé à peine il y a 2 ans, ils l'ont déjà reponcé, relasuré, enfin, c'est presque comme le chien de la famille. Quoi. Et donc, on crée un lien comme ça, où on va lier l'utilisateur final à la nature, à cet arbre. Et je pense que quelque part, on crée un lien fort et un respect, forcément. Parce que je ne connais pas de gens qui n'aiment pas la nature au jour d'aujourd'hui, sauf exception très très rare.
On dit souvent que la forêt méditerranéenne, surtout, il n'y a pas de bois d'œuvre. Ça, c'est ce qu'on entend chez nous, en fait. Il y a quand même beaucoup d'arbres qui partent à la Syrie, ou plutôt à Tarascon, par exemple, et qu'on pourrait faire des choses magnifiques avec, quoi.
On peut faire beaucoup de choses avec. Il y a, en fait, un barrage entre les menuisiers, de façon générale, et la chaîne entre le forestier jusqu'au scieur. Voilà. Le seul qui arrive à faire le lien, mais qui le fait assez peu souvent, c'est le scieur, puisque le petit scieur, au jour d'aujourd'hui, est en train de disparaître. Il n'y a plus que de la grosse scierie qui se fout un petit peu royalement de tout ça. Et dans la logique industrielle, on va chercher un arbre sans défaut, et quelque part, c'est triste. Voilà. Un arbre sans défaut, c'est comme un enfant qui ne parle pas dans son coin, c'est triste. Donc, un défaut, peut-être un décor, peut-être... un atout, une particularité d'un meuble ou d'une fenêtre, et je pense qu'il faut jouer là-dessus. Un bois méditerranéen peut être mal apprécié parce qu'une croissance très lente, difficile due aux éléments, et donc beaucoup de défauts dans la qualification actuelle qui est industrielle, mais c'est faux. Et on pourra l'utiliser en mettant en avant toutes ses qualités et non pas ses défauts.
Ça a une vraie identité, parce que ce n'est pas juste toute une série de planches qui sont toutes pareilles, quoi.
Oui, je n'invente rien du tout. En fait, c'était ce qui était mis en avant sur les ébénistes et les menuisiers d'époque qui utilisaient les planches avec les dessins pour faire dédoubler des veinages ou mettre en évidence des nœuds pour une décoration, pour un meuble, etc. Et on n'invente absolument rien du tout. On redécouvre un matériau qui était très noble, qui l'est toujours, mais qui a été un petit peu bafoué, malheureusement.
On a l'habitude, par facilité, d'aller acheter une cuillère en plastique ou en inox. Mais quand on fait le calcul de la chaîne, de ce que ça veut dire, on prend une branche, on la taille, c'est une cuillère. Le rapport direct au matériau, notre rapport à la terre, il est immédiat, il est rapide. Et pourtant, ce qui est absurde aujourd'hui, c'est que le matériau bois, il est plus cher que les matériaux industrialisés. Parce qu'on a poussé dans l'autre sens et on est au point sur la production industrielle. Mais aujourd'hui, le bois, on ne sait pas trop comment l'utiliser. Il est complètement sous-utilisé au niveau des sections de bois et des sillages et tout ça dans les scieries. Les gens, ils savent. Il n'y a plus une scierie qui sait s'il y a un morceau de bois. Donc, on normalise la gestion en fonction des scieries. C'est vraiment épatant, effarant de voir tout ça.
Tout à fait. Les chiffres sont complètement biaisés. Une fenêtre en aluminium, elle s'aligne sur le prix d'une fenêtre en chêne, voire peut-être même moins cher. Le coût de l'aluminium à la transformation, c'est 117 fois le coût énergétique de la transformation du bois.
Pour conclure cette émission, donnons la parole encore une fois à Lison, bûcheron forestier dans la montagne de Lure.
Bon, la forêt, c'est un milieu mais qui est magique dans le sens où il faut arrêter de penser que la forêt, ce ne sont que des arbres. Il y a plein de choses dans une forêt. On peut vivre dans la forêt, on peut utiliser les arbres, mais on peut utiliser plein de plantes. On peut les distiller, on peut faire des essentiels avec, on peut faire des confitures, on peut faire des liqueurs, on peut faire des champignons, il y a une quantité de choses qui sont utilisables de façon très raisonnée, mais qui permettent de faire vivre localement. On n'a pas besoin d'aller distribuer. On fait la confiture ici, on la vend ici, et puis c'est tout. Moi, j'aurais tendance à dire je crée parce que je recrée une vie humaine et végétale dans l'endroit que j'utilise, que j'habite, que je vis. Je suis dans une création par rapport à vraiment à ça, c'est-à-dire à l'ancrage dans mes tripes du lieu. Donc la création, c'est ça, c'est aller vers la réalisation et l'évolution des choses sans les calculer uniquement pour son intérêt propre, je dirais alimentaire, pour schématiser l'importance alimentaire que ça peut avoir au jour le jour. Ben oui, si je vois un arbre et je me dis qu'il peut être utilisé chez une personne qui va avoir un morceau, quelque chose d'un milieu naturel chez lui, qui va le garder à travers la génération, qui n'est pas éphémère comme les vêtements à la mode et la création, ben voilà, je regarde un arbre, je me dis celui-là, je pourrais peut-être l'utiliser pour faire ma montée d'escalier, je pourrais peut-être l'utiliser pour faire une poutre pour tenir ma toiture, je le verrais bien chez un sculpteur pour qu'il fasse une œuvre. Celui-là, il y en a un qui est joli à côté d'arbre, qui a un intérêt pour les oiseaux, qui a un intérêt pour l'esthétique, qui a un intérêt pour les graines qui peut essaimer. Et donc, je vais privilégier celui-là, même s'il n'est pas rentable pour moi. Chaque arbre a un sens vraiment. Je trouve ça, le bois, moi, c'est magnifique. C'est un matériau qui est extraordinaire. Qui est c'est assez drôle parce que c'est un matériau naturel qui a des caractéristiques mécaniques extrêmement techniques, donc qu'on peut assimiler à de la très haute technologie. C'est pour ça qu'on utilise beaucoup le bois en aéronautique, même l'aéronautique de pointe utilise le bois, donc c'est bien la preuve que c'est un matériau très très pointu. Et c'est magique de se dire que finalement, même dans le 21e siècle, on utilise encore le bois pour la très haute technologie. Je trouve ça sympa.
C'était Entre cimes et racines, la deuxième d'une série d'émissions réalisée par Radio Zinzine en partenariat avec le Réseau pour les alternatives forestières et avec le soutien de l'association Reliée et de la Fondation pour une Terre humaine. Pour tout renseignement sur le Réseau pour les alternatives forestières, contactez son coordinateur Gaëtan Dubus au domaine du Chalet, route de Chalabre, 11300 Limoux, ou par courrier électronique gdubus, donc G-D-U-B-U-S dans un seul mot, @gestion-forestière-sud.com. Vous pouvez également consulter la page forêt sur le site internet de l'association Reliée, www.reliée.info.